de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir chers auditeurs, vous écoutez maintenant la voix de l'Indonésie avec le journal. Je vais vous présenter quelques événements importants, entre autres, la crise climatique rend l'Australie plus vulnérable aux incendies de forêts et de terres. Corée du Sud, la Corée du Nord reste ouverte au dialogue avec les États-Unis. Le virus chinois peut se propager. L'OMS prévient les hôpitaux. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche et FAO intensifient la coopération en matière d'innovation de l'aliment alternatif pour la pisciculture mango. L'Indonésie encourage la coopération dans le domaine des technologies de l'information avec l'Arménie. Le ministre du Commerce encourage les produits des micro, petites et moyennes entreprises à pénétrer au Moyen-Orient. La réunion du président Macron avec les membres du G5 Sahel à Pau, en France, a discuté de la crise à Barkhane en Afrique. Chers auditeurs, voici les nouvelles en complet, avec moi Audrey. La crise climatique rend l'Australie plus vulnérable aux incendies de forêts et de terres. Les scientifiques prédisent que les incendies de forêts qui ont frappé l'Australie pourraient se reproduire même à plus grande échelle. Si les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique ne peuvent pas être supprimés, un examen de 57 articles scientifiques publiés depuis 2013 indique que la crise climatique rend l'Australie plus vulnérable aux incendies de forêt. Le chef de la recherche sur l'impact du climat au British Met Office Hadley Centre, Kachar Bhatt, a été cité par Reuters mardi 14 janvier comme disant que des incendies de forêt s'étaient produits à cette époque et que la catastrophe continuerait de hanter. L'examen a révélé que le changement climatique a provoqué une augmentation du réchauffement climatique, une faible humidité, de faibles précipitations et des vents forts. L'effet ne se produit pas seulement en Australie, mais depuis l'ouest des États-Unis et le Canada, jusqu'au sud de l'Europe, en Scandinavie, en Amazonie et en Sibérie. À l'échelle mondiale, le réchauffement a également affecté 25% de la végétation de surface sur Terre. Corée du Sud, la Corée du Nord reste ouverte au dialogue avec les États-Unis. Le président sud-coréen Moon Jae-in a déclaré mardi que la Corée du Nord n'avait pas fermé ses portes pour de nouvelles discussions sur le désarmement, dénucléarisation. Moon a également déclaré qu'il était trop tôt pour être pessimiste au sujet du dialogue sur la dénucléarisation, qui était coincé entre les États-Unis et la Corée du Nord. Moon a déclaré qu'une lettre remise récemment par le président américain Donald Trump au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un était un signe positif, qui soulignait son engagement à négocier. Moon, lors d'une conférence de presse au bureau présidentiel, a déclaré « La Maison-Bleue, certains clercs s'étaient déjà inquiétés d'une nouvelle vague de provocations qui était apparue le jour de l'anniversaire du président Kim. » Cependant, le président Trump a plutôt envoyé un souhait d'anniversaire à la Corée du Nord pour souligner sa volonté de négocier. Mais ce week-end, la Corée du Nord a déclaré qu'elle avait reçu une lettre directe de Trump et se moquait de la Corée du Sud, qui selon lui tentait d'interférer dans les relations américano-coréennes. Le virus chinois peut se propager. L'OMS prévient les hôpitaux. L'Agence des Nations Unies pour la Santé, OMS, a averti mardi que le virus corona qui avait frappé la Chine avait le potentiel de se propager. Jusqu'à présent, il y a eu une transmission limitée interhumaine du virus qui s'est produite en Chine, principalement en petits groupes dans les familles. Au total, 41 cas de pneumonie qui sont des symptômes de la maladie auraient été signalés dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, principalement lors d'une exposition sur un marché aux poissons. Maria Van Kerkhove, chef par intérim de l'unité OMS par le développement de maladies, a déclaré lors d'une conférence de presse à Genève que l'organisme mondial avait fourni des conseils aux hôpitaux du monde entier sur la lutte contre les infections au cas où le cas se propagerait. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche et FAO intensifient la coopération en matière d'innovation de l'aliment alternatif pour la pisciculture mago. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, KKP, et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, intensifient leur coopération pour encourager l'innovation de l'utilisation d'aliments alternatifs pour la pisciculture à l'aide de magots. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Edi Prabowo, dans un communiqué de presse reçu mardi à Jakarta. Il a expliqué que magot est un insecte qui mange de la matière organique, donc cette protéine d'insecte est de haute qualité et une bonne source de protéines pour la poisson. Le ministre Eddy a reçu lundi 13 janvier le représentant de la FAO en Indonésie, Steven Rudkar, à Jakarta. Au cours de la réunion, Steven Rudkar a déclaré que FAO soutiendrait le gouvernement indonésien conformément à son rôle dans le développement des programmes de pêche de l'Indonésie, y compris le partage des connaissances et l'accès à la technologie et aux bonnes pratiques comme le renforcement des capacités pour les ressources humaines. L'Indonésie encourage la coopération dans le domaine des technologies de l'information avec l'Arménie. Le gouvernement indonésien continue d'encourager le développement de l'industrie des technologies de l'information, notamment en collaborant avec l'Arménie dans le domaine de l'éducation basée sur les technologies de l'information. C'est ce qu'a déclaré le président Joko Widodo lors d'une réunion bilatérale avec le président arménien Armen Sarkissian à Abu Dhabi lundi. Le président a demandé que la coopération dans le secteur informatique soit renforcée et devienne l'une des priorités de la coopération bilatérale, compte tenu du développement rapide de l'industrie, des technologies de l'information et des start-up en Arménie. Le président Joko Widodo espère également que l'Arménie a conclu un accord de libre-échange avec l'Union économique eurasienne. Selon lui, cet accord était important pour que l'Arménie puisse profiter du vaste marché de l'Indonésie et de l'Union économique eurasienne, qui se chiffrait à environ 450 millions, répondant à l'espoir du président Jokowi, le président Armand Sarkissian a expliqué que son pays avait convenu de coopérer avec l'Indonésie dans le domaine des technologies de l'information. Le ministre du Commerce encourage les produits des micro, petites et moyennes entreprises à pénétrer au Moyen-Orient. Le ministre du Commerce, Agus Suparmanto, a visité le commerce de détail moderne de l'hypermarché Lulu à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, EAU, pour encourager les produits indonésiens, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, MPME, qui sont variées et uniques à pénétrer le marché du Moyen-Orient, en particulier les Émirats Arabes Unis. Les entrepreneurs indonésiens devraient avoir plus d'occasions de remplir le marché du Moyen-Orient, en particulier les EAU. C'est ce qu'a déclaré le ministre du Commerce dans sa déclaration reçue à Jakarta mardi. Selon le ministre du Commerce, le rôle de Lulu Hypermart était très stratégique pour aider les MPME indonésiennes à pénétrer le marché des Émirats Arabes Unis. Pour cette raison, le ministre du Commerce espère la facilitation et l'assistance de l'hypermarché Lulu afin qu'il puisse répondre aux exigences du marché au EAU. L'hypermarché de Lulu compte 185 magasins de détail et 23 centres commerciaux répartis aux Émirats Arabes Unis, en Inde, en Arabie Saoudite, à Bahreïn, au Koweït, à l'Oman, en Égypte, en Malaisie et en Indonésie. La réunion du président Macron avec les membres du G5 Sahel à Pau, en France, a discuté de la crise à Barkhane, en Afrique. Le président Macron a annoncé lundi 13 janvier 2020 au sommet de Pau, en France, que lui et ses collègues du G5 Sahel essaieraient de convaincre le président américain Donald Trump de ne pas retirer ses troupes de la région de Barkhane après des semaines de discussions françaises actives avec l'Amérique. Ça, c'est qu'a rapporté RFI.fr sur son site internet le mardi 14 janvier 2020. Selon RFI.fr, la réunion s'est tenue parce que les États-Unis prévoyait de libérer des dépenses budgétaires importantes pour les opérations militaires dans la région, car le soutien américain à l'opération Barkhane coûterait 45 millions de dollars par an. Le président Macron a déclaré que si les États-Unis quittaient leur base militaire au Nigeria pour lutter contre le terrorisme dans la région, ce serait certainement un vrai problème pour la France en tant qu'allié. Macron a déclaré que les troupes américaines étaient actives dans la lutte contre le terrorisme, en particulier dans les pays de la Corne de l'Afrique tels que Djibouti, la Somalie et le Niger. Chers auditeurs, c'était les nouvelles. Bonsoir à tous. Vous écoutez maintenant le commentaire d'aujourd'hui de La Voix de l'Indonésie avec moi, Oudry. Opportunité de paix en Libye. Des coups de feu et des explosions de bombes n'ont pas été entendus en Libye. Deux champs en guerre, le gouvernement d'accord national GNA et l'armée nationale libyenne LNA, le 13 janvier 2020, ont convenu d'un cessez-le-feu. Un accord pour faire la paix a été conclu lors d'une réunion à Moscou, à laquelle ont assisté le commandant de l'ANL Khalifa Haftar et le chef du GNA Fayez al-Serraj. L'accord de cessez-le-feu a reçu une réponse positive de divers partis. Le président russe Vladimir Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan ont soutenu l'accord de paix. Comme on le sait, la Russie et la Turquie soutiennent chacune le parti opposé, même s'il y avait un accord. Un coup de feu à petite échelle a été entendu. L'ONU demande donc instamment aux deux parties de respecter le cessez-le-feu. Les appels aux deux parties qui se battent pour le pouvoir tiendront les engagements de l'accord de cessez-le-feu, également pris par la Ligue arabe et l'Union européenne. À Tripoli, les représentants étrangers, par le biais de leurs ambassadeurs respectifs, ont exhorté les Libyens à utiliser des opportunités pacifiques afin que les pays puissent lever pour surmonter divers problèmes politiques, économiques et de sécurité. Des appels aux des parties belligérantes ont également été transmis par les pays membres de la Ligue arabe qui considéraient que les combats avaient cessé. Les conflits et la guerre civile en Libye ont commencé il y a près d'une décennie. Le chaos s'est produit depuis que Muammar Kadhafi, qui détient le titre de leader révolutionnaire libyen, a été renversé en 2011 par une révolte. Depuis lors, la Libye, riche en pétrole, s'est divisée en deux camps, à savoir le GNA et le LNA, qui contrôlaient respectivement l'Est et l'Ouest. Les deux conflits ont détruit l'économie du pays et perturbé l'approvisionnement mondial en pétrole. C'est dans cette perspective qu'un certain nombre de pays considèrent la résolution de la crise comme très importante pour que l'approvisionnement en pétrole de ces pays vers divers pays revienne à la normale. La question est de savoir dans quelle mesure le cessez-le-feu conclu à Moscou sera un élan pour la paix en Libye. Tout dépendra des prochaines étapes à suivre. Les deux chefs de camp en guerre doivent être en mesure de saisir l'opportunité d'un cessez-le-feu pour instaurer la paix dans la nation riche en pétrole. Serge Littard, c'est tout le commentaire.
Serge Littard, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire aujourd'hui avec l'événement la naissance de Martin Luther King Jr. le 15 janvier 1929. Martin Luther King Jr. est un prêtre et militant antiraciste des États-Unis. Le lauréat du prix Nobel de la paix de 1963 est né à Atlanta, en Georgie, aux États-Unis, le 15 janvier 1929. En 1963, King a dirigé une manifestation de boycott des bus à Birmingham. Le boycott s'est fait sans recourir à la violence. Il a suivi les principes de Mahatma Gandhi qui se sont battus en évitant la violence. À la suite de ses actions contre la discrimination contre les Noirs, King a été emprisonné dans une prison de Birmingham. Son discours intitulé « Je en rêve » lors du défilé à Washington DC le 28 août 1963 l'a rendu encore plus célèbre. Il a été tué par balle lorsqu'il est intervenu à Memphis le 4 avril 1968. Sa mort a provoqué de nombreuses émeutes et des affrontements dans diverses villes des États-Unis. L'autre information est sur la bataille de la mer d'Aru le 15 janvier 1962. La bataille de la mer d'Aru était une bataille qui a eu lieu dans la mer d'Aru, aux Moluques, le 15 janvier 1962 entre l'Indonésie et les Pays-Bas. Cet incident s'est produit lorsque deux types de destroyers, les avions de type Neptune et Vreeli des Pays-Bas, ont attaqué le bateau de marine indonésienne KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang et KRI Harimau appartenant à l'Indonésie en patrouille. Le commodore Yosudarso a finalement pris des mesures pour combattre les avions néerlandais afin de sauver nos deux autres navires. KRI Macan Tutul, dirigé par le commodore Yosudarso, s'est noyé dans la mer d'Aru. Le commodore Yosudarso est décédé dans cette bataille après avoir fait appel à son fameux dernier message. Remuer l'esprit combatif, chaque 15 janvier, cet événement est commémoré comme le jour du service océanique. Nous finissons le soir aujourd'hui avec l'événement, la signature de l'accord d'Alvor. Les accords d'Alvor signés le 15 janvier 1975 dans le village du même nom, en Algarve, au Portugal, reconnaît l'indépendance de l'Angola du Portugal à compter du 11 novembre de la même année, mettant fin à la guerre d'indépendance. Les signataires sont le Mouvement populaire de libération de l'Angola, ou MPLA, le Front national de libération de l'Angola, ou FNLA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, d'une part, et le gouvernement portugais, d'autre part. Le Front pour la libération de l'enclave de Cabinda, ainsi que la révolte de l'Est, est exclu des négociations et de la signature. Serge Ritter, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Damai yang pasti tercipta kini di relung pesona yang beranjak menyepi. Ku pandang kelam telah berlalu seolah terlintas bagai impian sunyi yang mengawali kisah legenda kehidupan. Biasa berucap kata terlamur jelita penuh asap kemelut hanya merenung kalbu berkabung menyesali diri bagai impian sunyi yang mengawali kisah legenda kehidupan. Jadi dibayangkan nanti sinar dan berganti kini. Oh, 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 oh. Semua tak terjadi tanpa disadari hanya kurnia terbukti. Jadi dibayangkan nanti sana.
Chers auditeurs, c'était la chanson entre Panggung Perak, chantée par Faris RM. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie. Sixième l'antenne pour l'arbitre suivant, voici donc mon Indonésie. Et pour le titre, le président Jokowi et le président arménien discutent de l'amélioration de la coopération informatique et des facilités de ses visites sans visa. Le président Jokowi Dodo ou Jokowi espère que la longue relation historique entre l'Indonésie et l'Arménie doit être poussée dans une coopération mutuellement bénéfique. Cet espoir est exprimé par le président Jokowi lors d'une réunion bilatérale avec le président de la République d'Arménie, Armen Sarkissian, à l'hôtel d'Emirat Palace, Abu Dhabi, lundi matin. Un communiqué de presse du Bureau de médias de la presse et de l'information a déclaré lundi que, lors de cette réunion, le président Jokowi avait demandé d'intensifier la coopération dans le domaine des technologies de l'information et d'être l'une des prioritaires de la coopération entre les deux pays. Le président Jokowi a entendu que l'industrie des technologies de l'information et les start-up se développent assez rapidement en Arménie. À cette occasion, le président Jokowi a également expliqué que les industries de démarrage et d'innovation se développent également en Indonésie et sont incluses dans les 10 pays comme étant les plus de licorne au monde. Répondant à l'offre, le président arménien Armen Sarkissian a accepté et était disposé à coopérer avec l'Indonésie dans les domaines des technologies de l'information. Il expliquait que l'éducation en Arménie était basée sur la technologie de l'information. Le président Jokowi a également demandé à l'Arménie d'obtenir un accord de libre-échange avec l'Union économique eurasienne. Cet accord de libre-échange est très important pour profiter des grands marchés de l'Indonésie et de l'Union économique eurasienne qui sont environ 450 millions. Le président Jokowi a déclaré qu'en octobre de l'année dernière, l'Indonésie et la Commission économique eurasienne avaient signé un protocole de coopération à Jakarta. Selon le président, le protocole de coopération était la première étape pour commencer à négocier un accord de libre-échange. Citant la page tetcap.go.id lors de la réunion, le président a également déclaré qu'afin d'améliorer les relations interpersonnelles entre les deux pays, le gouvernement arménien offre des facilités sans visa aux citoyens indonésiens. Le président a expliqué que l'Indonésie avait accordé sans visa pour le peuple d'Arménie. Il est sûr que les facilités sans visa pour l'Indonésie peuvent rapprocher les relations interpersonnelles entre l'Indonésie et l'Arménie. Répondant à cette question, le président Sarkissian a déclaré que sa partie suivrait immédiatement. Il expliquait qu'il ordonnerait immédiatement aux fonctionnaires autorisés de traiter immédiatement cette demande sans visa. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson entre les Senja de Batas Kota, chantée par Jelita Septiana. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la santé locale du peuple indonésien. Chers amis l'antenne, c'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et pour le titre « Le village touristique de Songgon ». L'Indonésie est un paradis de destinations touristiques naturelles. L'une des régions de l'Indonésie qui peut devenir votre destination est Banyuwangi. Pour vous qui avez déjà été là-bas, vous savez certainement à quel point la belle plage rouge est un autre panorama naturel. Il y a un endroit à visiter si vous êtes à Banyuwangi, à savoir le village touristique de Songgon. Songgon est un quartier de Banyuwangi qui est situé sur les hauts plateaux, précisément sur la pente du Mont Raoum. Il faut environ 2 heures à pied de Banyuwangi à Songgon, mais un long voyage sera payé lorsque vous voyez un paysage verdoyant qui vous rafraîchira les yeux. Songgon, qui est géographiquement situé dans une région montagneuse, possède de nombreux potentiels touristiques naturels magnifiques. La forêt de pins de Songgon a été officiellement ouverte au public en octobre 2016. La forêt offre diverses activités intéressantes, telles que monter à cheval, prendre des photos ou voir des paysages depuis une cabane dans les arbres. Le visiteur ne paie qu'un billet d'une valeur de 5000 roupias. Ils nous ont offert quelques activités ludiques intéressantes comme l'équitation, le hamac ou le camping seront facturés à nouveau. À Songgon, nous pouvons voir non seulement la forêt de Pan, mais aussi la rivière de Badeng qui a une forte ruissellement. Cela peut stimuler votre adrénaline pour le rafting. La rivière de Badeng, Songgon, est classée sans danger pour le rafting. Il faut environ 2 heures pour terminer la ligne de rafting qui compte 25 rapides. Pour vous qui aimez passer votre temps en silence, vous pouvez visiter Rowo Bayou. L'endroit est un lac d'eau verte au milieu d'une pinette de 8 hectares sur la pente du Mont Raoum. Ce Rowo, ou en anglais, signifie que le marais est l'endroit où se rencontrent 3 sources, à savoir Sendang Keputren, Sendang Wiganga et Sendang Kamulian, situé dans le village de Bayou, le district de Songgon, la résidence Banyuwangi. Le meilleur moment pour visiter Rowo Bayou est en décembre. À Songgon, il y a aussi une belle cascade, à savoir Temkor. Temkor est de langue Madura. Temok Chora signifie Timur Jurang ou Georges de l'Est en français, parce que l'emplacement de la cascade est à l'est de la falaise. La randonnée jusqu'à l'emplacement de la cascade nécessite suffisamment d'énergie, mais il sera payé en voyant des paysages tout au long du voyage. La prochaine destination est la Villa Bejong. Cette villa n'est en fait pas un objet touristique. La Villa de Bejong sert de maison d'hôte la nuit, parce que beaucoup de gens qui partagent des photos de la Villa de Bejong sur Instagram. La villa est enfin ouverte au public. Chaque visiteur sera facturé 5000 roupias. Prendre des photos et profiter de la fraîcheur de l'air deviennent les principales activités qui peuvent être faites à la villa. L'endroit le plus préféré est à la mosquée. L'architecture vintage de la villa avec ses environs de plantations vertes devient un arrière-fond pour selfie. Chers auditeurs et auditrices, c'était le magazine culturel pour ce soir avec comme titre « Le village touristique de Songgon ». Demain, nous nous retrouvons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Biarkanlah kemarau yang panjang ini
Chers auditeurs, c'était la chanson de Guillaume Warny, intitulée Kepasrahan. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'Indonésien.
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien, une rubrique qui vous introduit les vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence du développement et du renouvellement du langage du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République indonésienne. Le sujet d'aujourd'hui est Perkenalan. Perkenalan, ou en français, faire la connaissance. Bonne écoute. Chers auditeurs, le sujet d'aujourd'hui est Perkenalan. Perkenalan, en français, faire la connaissance. L'objectif de cette émission, après avoir fait écouter cette édition, les apprenants peuvent utiliser les expressions pour faire la connaissance. Il y a les personnages Kevin et Monsieur Imran, c'est l'agence de l'université. La suite, le lieu dans la salle à attendre de l'aéroport. La situation est Monsieur Imran cherche Kevin à l'aéroport. Kevin fait la connaissance avec Monsieur Imran. L'atmosphère, le son bruyant à l'aéroport.
Selamat siang, Anda Kevin Smith.
Siang, iya betul.
Kenalkan, saya Imron. Saya diberi tugas oleh dekan untuk menjemput Anda.
Oh baik, nama saya Kevin Smith. Panggil saja Kevin.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation ci-dessus, je vais vous présenter les expressions et les vocabulaires reliant avec le sujet d'aujourd'hui. Perkenalan, perkenalan. En français, faire la connaissance. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez me répéter. Kenalkan, saya Imran. Kenalkan, saya Imran. Je me présente, je suis Imran. Nama saya Kevin Smith. Nama saya Kevin Smith. Je m'appelle Kevin Smith. Panggil saja Kevin. Panggil saja Kevin. Vous pouvez m'appeler Kevin. Nama. Nama. Nom. Nama saya. Nama saya. Je m'appelle. Kenalkan. Kenalkan. Je me présente. Chers auditeurs, dans la conversation ci-dessus, vous avez écouté deux personnes qui sont en train de faire la connaissance. L'un d'eux a dit « Kenalkan, saya Imran. Kenalkan, saya Imran. Je me présente, je suis Imran. » Pour se présenter, vous pouvez commencer en disant « Kenalkan. Kenalkan, je me présente. » Ou bien perkenalkan, perkenalkan, je me présente. Par exemple, kenalkan, nama saya Imran. Kenalkan, nama saya Imran. Je me présente, je suis Imran. Ou bien perkenalkan, saya Kevin. Perkenalkan, saya Kevin. Je me présente, je suis Kevin. Pour mentionner votre nom, vous pouvez dire Nama saya Kevin. Nama saya Kevin. Je m'appelle Kevin. Ou juste dites saya Kevin. Saya Kevin. Je suis Kevin. Chers auditeurs, voici quelques exemples. Nama saya Kevin. Nama saya Kevin. Je m'appelle Kevin. Nama saya Imran. Nama saya Imran. Je m'appelle Imran. Saya Kevin. Saya Kevin. Je suis Kevin. Saya Imran. Saya Imran. Je suis Imran. Chers amis, comme d'habitude dans la culture indonésienne, après avoir fait la connaissance, on continue la conversation en demandant les nouvelles, par exemple. Kevin. Kenalkan, nama saya Kevin. Kenalkan, nama saya Kevin. Je me présente, je m'appelle Kevin. Saya Imran. Saya Imran. Je suis Imran. Oh, hai Imran, apa kabar? Oh, hai Imran, apa kabar? Oh, salut Imran, ça va? Chers auditeurs, dans le coin de culture, voici quelques informations importantes. Lorsqu'ils font la connaissance avec d'autres personnes, les Indonésiens se serrent généralement la main. Certains se serrent la main d'une main et d'autres utilisent deux mains. Se serrer la main se fait avec la main droite. Si vous utilisez votre main gauche, sera considéré comme impoli. Chers amis, avant de terminer à apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois. Bonne écoute.
Selamat siang, Anda Kevin Smith.
Siang, iya betul.
Kenalkan, saya Imron. Saya diberi tugas oleh dekan untuk menjemput Anda.
Oh baik, nama saya Kevin Smith. Panggil saja Kevin.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître la langue indonésienne. On se rencontre demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci beaucoup d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Semi di antara kita menyandang anggunnya peranan jiwa asmara terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini sehidup semati kian lama kian pasrah ku rasakan jua janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Dalam wangi bunga cinta dan bahagia. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terbuai di batas asmara. Kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah. Menipu sanubari tak semudah kusangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti aku kan melangkah menuju damai jiwa.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson intitulée Sakura, chantée par Harvey Maliholo. Vous êtes avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Bon, chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Chers auditeurs, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique Magazine musical, je vais vous présenter une chanson traditionnelle de Java Central, Gambang Suling. La chanson de Gambang Suling a été composée par Kinarto Sabdo. Les paroles ne comprennent également que 5 lignes. Cette chanson est une expression d'admiration pour l'instrument de flûte qui aurait une voix très mélodieuse. La flûte est également appelée pour être jouée avec les souches d'instruments de musique Kentron et Ketipon. Bon, chers auditeurs, voici la chanson Gambang Suling, chantée par Soleh Akbar.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en langue française pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.